16h48, ouais. Hey, j'aurais aimé ça prendre le temps de jouer toutes les tonnes, de lire tous les témoignages, parce que pendant la pause, j'étais en train de vous lire les gens qui ont été très nombreux à participer à On se donne du gaz, édition Fête des Pères. Puis en passant, si vous avez le goût de les partager, si jamais on n'a pas le temps d'ici 18h, je vous invite à joindre la conversation Facebook Boulevard 102.1 qui a été amorcée hier. La question est simple, c'est quoi la ou les tounes qui vous font penser à votre père et pourquoi? Puis je fais partie des gens qui ont partagé quelques souvenirs à un point où à un moment donné, j'ai recommencé à écouter des tounes que ça faisait des lunes que j'avais pas écoutées. Parce que, puis, tu sais, parler des tounes en tant que telles, pour moi, ça n'a pas vraiment de... Vous allez me trouver plate, c'est pas des tounes connues. Tu sais, c'est des tounes bien spécifiques. Il y en a une qui me rappelle quand on partait en canot ensemble parce que mon père la chantait pour remplir le vide. Là. Fait que moi, j'ai des souvenirs de... Mon père part une toune, c'est tout le temps même. Tout le temps même. Puis moi, je finis la toune en arrière en ramant. Puis parce que dans le temps, on faisait du canot sur le Saguenay. Puis ça fait partie des beaux moments, des beaux souvenirs. Dès que j'entends du Gilles Vigneault, c'est drôle. Moi puis mon père, on a plein de goûts musicaux qui se ressemblent. Gilles Vigneault, c'est à lui. J'ai jamais vraiment embarqué dans patente. Mais dès que j'entends du Gilles Vigneault, je pense à mon père tout de suite.
Mais c'est beau, tu
c'est instantané. Mais c'est ça, là, continuez sur le Facebook de Boulevard 102.1 parce qu'il y en a déjà énormément qui ont partagé. Autant des gens qui ont la chance d'avoir encore leur père que des gens qui trouvent qu'il est parti trop tôt. Beaucoup de beaux témoignages. Fait que continuez de renchérir sur le Facebook de Boulevard, puis on va essayer de se trouver du temps désespérément d'ici 18h, sinon un petit peu plus tard cette semaine. Hey, il est 5h-10. Caro Gagnon est psychiatre, vous l'avez entendu tantôt. Salut Caro.
Bonjour Denis.
Re-bonjour.
Max, Audrey, salut.
Hello. c'est un sujet qui revient de façon continuelle, puis on voit que c'est quelque chose qui laisse des traces. Souvent, quand une personne va parler de son passé, la première chose qui revient, c'est l'intimidation. La première chose qui laisse des traces, c'est l'intimidation. Puis, c'est cyclique aussi dans les nouvelles, des histoires de bullying, des histoires de violence dans les écoles. Puis là, maintenant, c'est filmé. Puis on voit que des fois, les parents s'en mêlent et ainsi de suite. Ça peut déborder, ça peut aller loin. On a l'impression qu'on connaît toutes à peu près de l'intimidation. Mais si on revient à la base, si on explique c'est quoi l'intimidation, puis comment ça peut... Parce que ça a évolué, je veux dire, avec les moyens technologiques, puis ça n'a peut-être pas évolué pour le mieux, hein, Caro?
Ça s'est complexifié, je te dirais, l'intimidation dans les dernières années, les dernières décennies. Mais c'est très... L'intimidation, c'est deux personnes. C'est un intimidateur, puis quelqu'un qui est intimidé. C'est une relation entre deux personnes, mais c'est un pattern de répétition où j'ai l'intention, si j'intimide, j'ai l'intention de vous blesser, de vous faire sentir une menace. J'ai cette intention-là, probablement parce que moi, à l'intérieur de moi, je sens que je ne vaux pas grand-chose, mais je ne le montre pas. J'ai une carapace, je fais semblant que je suis au-dessus de tout le monde, je vois quelqu'un qui me semble plus faible que moi, entre guillemets, là, faible, et là, je commence à avoir des propos, des gestes, des comportements, plein de choses ciblées sur une ou plusieurs personnes, mais souvent, c'est ciblé une personne, c'est une relation à deux. Tu sais, la relation toxique.
Oui.
On parlait de ça il y a quelques semaines.
Oui.
Je trouve qu'il y a de ça un peu, bien, une saveur de... C'est quelque chose dans une relation, l'intimidation, souvent.
Est-ce que c'est une façon malhabile à l'adolescence de vouloir se placer à la tête du groupe ou quelque chose du genre? Parce que tu dis que c'est une relation à deux.
Oui.
Moi, les souvenirs que j'en ai, souvent, c'est une gang sur quelqu'un avec un gars qui mène un peu la charge, qui devient peut-être l'intimidateur en chef.
Exact.
Là.
Le meneur dont je parle, c'est lui dans la relation qui va intimider quelqu'un.
Oui.
Puis là, il y a un groupe. Pour appartenir au groupe, pour être cool, les autres vont se relier au lion de la jungle. On va dire ça comme ça. Fait qu'eux autres, ils veulent appartenir au groupe. Ils veulent pas intimider.
Mm-hmm.
Mais ils finissent par le faire. Pour appartenir à la gang du gars qui a l'air plus fort que les autres, oui, ça se peut qu'il veuille se placer en situation de supériorité, ce garçon ou cette fille-là. Des fois, c'est des filles aussi. Là, on dit garçon, mais c'est garçon-fille.
Oui.
C'est pas genré, cette affaire-là. Mais on va penser à un intimidateur qui embarque, qui enrôle des gens dans son mouvement. Puis ça peut être contre une personne ou un groupe de personnes. Mettons un petit groupe de cheminement particulier dans une école qui ont des difficultés un petit peu de fonctionnement. Ben là, il y en a qui vont commencer à rire de ce groupe-là.
Mm-hmm.
On peut voir donc des groupes aussi. Mais c'est quand même une relation où on menace quelqu'un.
Je veux vérifier deux choses que ma mère me disait quand j'étais intimidée à l'école. Elle
oui.
me disait, premièrement, la personne qui t'intimide, c'est probablement la personne la plus malheureuse de l'école. Tu seras mon fils. Et la deuxième chose, fais semblant de rien, montre que ça t'atteint pas et ça va arrêter. Je peux pas dire que ça a marché fort, là. Je sais pas si je sais pas si mon poker face était à travailler, là, mais est-ce
mais
que dans les
elle
deux...
Elle avait raison.
Oui, les deux se vérifient.
C'est vrai que c'est des gens souffrants, mais c'est caché, c'est vraiment là, camouflé mm-hmm. par un comportement d'intimidation. Mais souvent, si on ignore le comportement va diminuer. Mais c'est dur d'ignorer quelqu'un qui te pousse, qui te poke l'épaule toute la journée ou qui enlève ton matériel scolaire. Il y a des choses assez rough, là, comme tu disais. En plus, c'est filmé maintenant. C'est filmé, l'intimidation. Ça
ouais.
se voit en boucle. En plus d'être intimidé une fois à l'école, les gens le réécoutent en boucle la fin de semaine, les soirs, pour rire de la personne qui a eu l'intimidation. Fait que là, on est comme dans un film. C'est pour ça que je te dis, ça s'est complexifié. Là, le phénomène que toi, tu vivais dans les années 90, mettons, une fois à l'école, là, il est joué en boucle par mm-hmm. tout le monde, il est transféré, il est sur YouTube, il est partout, là. Fait que c'est là que là, on perd contrôle de qu'est-ce qu'on fait avec ça, là.
Il y a aussi la cyber-intimidation qui
oui.
embarque là-dedans.
Oui, là, ça embarque là, au bout. Puis la cyberintimidation, elle a plein de formes, mais elle est 24/7. On peut intimider quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 maintenant.
Je ne sais pas si, puis c'est dur de se placer dans l'époque actuelle, technologiquement parlant, puis de penser, tu sais, quel genre d'ado je serais devenu, mais je me dis personnellement, si l'intimidation m'avait suivi jusque chez nous, si l'intimidation... J'ouvre un cellulaire à la maison dans le milieu de la nuit, puis j'envoie, puis ça continue. Pas sûr que j'aurais passé à travers. Ben honnêtement, là.
Je me dis la même chose. T'sais, je me dis, tu sais, le vendredi après-midi, quand c'était terminé l'école, puis on passait le week-end à faire autre chose.
Faisait du bien.
C'était trippant.
Oui.
On revenait lundi, mais on n'avait pas les vapeurs d'intimidation. Dans le week-end, c'était la famille, les amis, c'était quelque chose de positif.
On avait le temps de prendre du recul
là, on
aussi.
A l'air à des vieux là, qui disent « dans mon temps », mais c'est juste qu'on n'avait pas ça comme défi. Il y avait d'autres défis,
oui.
mais on n'avait pas ça comme défi. Maintenant, moi, je serais bien mal organisée pour lire des trucs sur moi tout le week-end si j'avais 15 ans, là,
mm-hmm.
puis qu'on rirait de ce que j'ai porté hier, puis il y a une photo avec ça, puis des captures d'écran d'une conversation que j'écris à un gars, peut-être. Et là, il y a de l'intimidation comme ça. Un gars, une fille se fréquentent, ils ont une conversation, capture d'écran, la fille envoie ça à tout le monde. « Gars, le gars, il trippe sur moi, hein, il est con. » Fait que là, tout le monde, toute l'école, c'est ça le lendemain. C'est ça aussi, là. C'est plein de formules, là. Tu sais, super par en dessous, là, ce qui se passe présentement.
Est-ce qu'il y a un peu une genre de prédisposition à intimider ou à être intimidé? Tu sais, c'est-tu une question de caractère? C'est-tu comme inné? Je sais pas, là, t'as un caractère de marde dans la famille, ça se transmet, puis t'es ben, l'écoeureux.
Si tu joues au hockey.
Oui, par exemple. Ben, moi, j'ai dans la tête qu'il y a un modèle environnemental autour. J'ai un modèle dans ma tête, mais c'est pas une lecture que j'ai faite récemment. Mais si t'as des parents qui ont intimidé des gens, c'est sûr que comme enfant, c'est ton modèle. Ça se peut que tu intimides plus.
Ouais.
Si tu t'es fait intimider, puis tu élèves tes enfants un peu sans la protection, sans dire fais ta vie puis fous-toi des autres, ça se peut que tu aies quand même un modèle, une génétique puis un environnement qui favorise que tu es plus fragile à être intimidé.
Mais au-delà de ça, y a-tu deux catégories qui se placent en partant? Tu sais, je me dis, les gens qui sont doux puis qui n'ont pas la réplique facile, qui sont tranquilles de caractère.
C'est comme des cibles ambulantes.
Bien, on dirait.
Oui. C'est des cibles. Puis là, c'est là qu'il faut les aider puis les supporter. Puis en même temps, il faut amener des nuances. Ça se peut. C'est comme quand je dis que c'est complexe, ça se peut que quelqu'un de doux passe free partout.
Mm-hmm.
Puis il n'y a pas de problème. Ça se pourrait, tu sais, qu'il n'y ait jamais d'intimidation. Mais oui, ça se peut. Qu'un
Parce
doux
que
est gentil.
C'est ironique quand tu y penses. Tu essaies d'élever tes enfants à être fins, à ne pas être méchants. En tout cas, je suppose.
Oui.
Puis c'est ces jeunes-là qui se ramassent finalement à être cibles d'intimidation.
Mais si on revient à la théorie de départ, puis je vais essayer de faire mon psychiatre version très, très, très wish. Là.
Oui.
Mais. La personne qui n'est pas bien dans sa peau et qui est timide voit quelqu'un qui semble bien dans sa peau, c'est la personne qui va le déstabiliser le plus, c'est la personne qui va l'agresser le plus, puis ça c'est devient ça. La cible facile. Tu sais, la personne qui n'a pas l'air d'avoir besoin de rien, puis qui fait ses petites affaires tranquilles, pour un insécure qui a besoin de tout, qui a besoin de l'approbation, qui a besoin d'entendre rire, qui a besoin de se faire dire qu'il est bon, qu'il est beau, qu'il est drôle, il n'y a rien qui dérange plus que cette personne-là. J'ai-tu raison?
T'as raison. Ça, c'est un exemple de dynamique.
Ouais.
Donc, quelqu'un qui est dans la classe, qui veut être supérieur aux autres, il va faire des blagues sur le dos du même élève pendant tout un cours, mettons. Mm-hmm. Bien, c'est même pas juste un cours, ça peut être des mois et des mois. Là. Ça se répète. Là.
Mais
c'est la tête de Turc. Là.
Pourquoi le phénomène, en tout cas, peut-être que les médias l'amplifient, mais on a l'impression que c'est plus grave que c'était avant, alors que de plus en plus, on prêche des valeurs de tolérance. On apprend à vivre avec la différence. On la voit, on la connaît, on l'apprend plus, la différence. T'sais, on avait... Je ne veux pas dire qu'on avait des excuses d'intimider des années 70, 80 ou 90, mais maintenant, on a vraiment changé l'enveloppe, on a vraiment changé le contexte. Et pourtant, on arrive au même résultat. Pourquoi?
On va retourner aux hommes des cavernes. Pourquoi on se battait à l'époque?
Ouais.
Pour avoir un territoire, de la nourriture. Ça, c'est inné dans l'humain, c'est de vouloir. Tu sais, l'instinct, je vous ai déjà parlé, il y a l'instinct de vie puis il y a l'instinct de mort. Quand le petit bébé, il naît, là, on a l'agressivité en nous, on a tout ça. C'est à nous de la gérer puis de la connaître. Mais moi, ce que je peux voir, c'est qu'on fait des choses pour enlever l'intimidation, mais il y a quelque chose dans l'être humain, tu sais, qui veut taper sur l'autre, qui veut prendre le dominer. C'est beaucoup de la domination, l'intimidation. Ils veulent beaucoup dominer, ces gens-là. Donc, ce besoin-là de dominer, ça vient de loin. Là. Ça vient de nos ancêtres, puis de loin, très loin, là, ce phénomène-là.
Et il y en a qui vont dire, ben dans ce temps-là, on réglait ça à coups de massue, puis on utilisait la violence. Comment on fait sans devenir Will Smith ou sans devenir un parent qui passe aux nouvelles pendant une semaine? Qu'est-ce qu'on fait pour conscientiser l'intimidateur? Comment est-ce qu'on fait pour que ça arrête? Parce que souvent, c'est le mot qui revient le plus. Tu sais, papa, je me fais écœurer à l'école, je veux juste que ça arrête.
Oui, c'est ça. On travaille de concert avec tout le monde autour. Mais c'est sûr qu'il faut respirer puis gérer notre propre agressivité. On ne sera pas plus avancé, même si on comprend le parent qui n'en peut plus que son enfant, c'est à répétition qu'il se fait battre puis qu'il va se battre, là, finalement. On comprend. Mais il faut gérer ça comme adulte.
Ouais.
On a cette responsabilité-là de gérer ça puis de travailler en équipe avec plein de monde. Parce que c'est pas juste à l'école, dans le corridor. Des fois, c'est juste en sortant de l'autobus ou c'est ailleurs dans la rue. Tu sais, il y a plein d'endroits. Fait qu'il faut impliquer d'autres mondes.
L'école, c'est pas évident. Puis pour avoir vécu un épisode récemment dans un contexte sportif, souvent les parents des équipes de hockey, des équipes de soccer vont avoir un groupe Facebook ou une conversation Messenger où tout le monde peut se rejoindre. Puis ça fait en sorte que, par exemple, quand il y a un jeune qui se fait intimider, ben t'es capable d'avoir une conversation d'adultes, une conversation de groupe, puis souvent, ça amène des réactions positives, puis ça amène une conscientisation. Tu sais, on voit le mauvais côté de la technologie, là, pour avoir vécu une expérience récemment où j'ai vu beaucoup d'adultes stepper up pour arrêter un phénomène d'intimidation dans une équipe sportive. Bien, il y a quand même un côté positif à ça. Là.
Oui, puis ça, c'est une belle initiative que tout le monde, que des adultes se concertent. Puis une équipe sportive, on a les valeurs à transmettre, tu sais, qui sont positives, là, qui sont pas de l'intimidation. C'est l'inverse, c'est être en équipe.
Exact.
Puis se supporter, puis celui qui va moins bien, on le prend, puis on l'aide, au lieu de l'exclure. Fait que c'est une belle façon, ça, de pouvoir travailler l'intimidation. Mais on va y travailler beaucoup, mais est-ce qu'on va l'éradiquer? Tu sais, comme la variole a été éradiquée et est revenue finalement. En tout cas, tu sais, je veux dire, je le sais pas, c'est idéaliste, mais c'est le fun de conscientiser tout le monde là-dessus, ça c'est sûr.
Bien, j'ai envie de te reposer la question parce que tu as répondu sous l'angle de l'intimider.
Oui.
Qu'il fallait qu'on s'assure justement de faire un genre de travail d'équipe pour protéger le jeune qui est intimidé, comme parent, de se gérer. L'affaire, c'est qu'il y a personne qui a demandé ça. Tu sais, fait qu'à mon sens, c'est comment tu conscientises un intimidateur? Parce que tu l'as dit tantôt, c'est peut-être un manque d'amour, de confiance.
Il vit
quelque chose.
C'est ça qu'il vit des trucs. Là.
Il y a une lacune à quelque part.
Si tu vas le voir et tu lui dis que tu manques d'amour, tu vas te ramasser un point d'en face. Là,
je veux dire. Ou si tu lui dis que c'est un
il va t'intimider, toi.
Oui,
non, c'est
oui.
ça. Mais même, il y a des intimidateurs qui ne se rendent pas compte. J'ai l'impression qu'ils le sont puis qu'ils ne le prennent pas. Fait que, comment tu réussis à craquer la carapace? Parce que je me dis, un parent qui, malheureusement, son jeune intimide, tu dois être gêné. Ça doit être l'enfer à gérer. Là.
Ça doit être très difficile. Pour un ado, on pourrait penser qu'un intervenant pourrait faire un bout de chemin. Tu sais, comme regarder ensemble d'où ça vient, puis comment toi... Tu sais, créer un lien de confiance avec l'adolescent pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu te sens comment, toi, dans ta peau? Tu sais, t'as peut-être 6'4", puis t'es super beau, t'es plus beau de l'école, puis tu vas pas bien du tout. Fait qu'il faut percer un peu cette coquille-là, puis il faut enlever notre jugement qui a intimidé quelqu'un. Mm. C'est comme traiter les troubles, les gens qui ont des troubles de pédophilie.
Ouais.
Quand on les aide, il faut enlever notre jugement de côté pour les aider à gérer leur pulsion sexuelle. Mais la pulsion agressive, la pulsion d'intimider, c'est un peu pareil. Il faut que tu aies un intervenant qui est ouvert à mettre ça de côté, puis à regarder toi comment tu vas comme personne. Puis là, peut-être qu'on va aller chercher quelque chose au niveau de qu'est-ce qu'il vit dans ses émotions, ce jeune homme-là ou cette jeune fille-là.
Puis, as-tu des outils qui sont peut-être plus faciles à avoir pour les parents parce que c'est plate? Écoute, je m'excuse, je te contre.
Non, mais c'est parfait.
Mais dans les écoles, c'est tellement difficile. La réalité, c'est que des travailleurs sociaux, il n'y en a pas ou presque pas.
Il y en a
de
moins en moins, même. C'est ça qu'on me dit, là.
C'est le bordel pour les jeunes qui en vivent, l'intimidation. Parce que le premier réflexe, ça va être d'aider les intimidés et non les intimidateurs en partant quand tu as peu de ressources, là.
Oui.
Peut-être pour un parent,
souvent, on donne des conséquences à ceux qui intimident.
Mais totalement.
Mais la conséquence ne fonctionne pas toujours sur le... Ça n'arrête pas nécessairement un comportement ou une façon d'être chez un jeune. Fait qu'il faut aller plus loin que ça. Mais tu as raison, le manque de ressources, tu demandes, Denis, pourquoi ça augmente l'intimidation? On a moins de ressources qu'avant. Est-ce que ça peut expliquer? On est moins là pour accompagner nos jeunes dans ce qu'ils vivent. Fait que là, il se passe des trucs entre eux, puis là, ça devient plus difficile. Puis on voit des horreurs là, dans l'actualité, là. Des grosses blessures, des décès, des affaires qui n'ont pas d'allure là, dans des écoles.
Puis je disais que l'école, c'est un milieu plus difficile. Puis je vais prendre un exemple concret. T'es un parent, ton enfant se fait intimider. Le premier réflexe que t'as, c'est d'embarquer dans ton char puis d'aller à l'école. Ouais. Mais quand tu vas à l'école en tant que parent, les kids le voient tout, là. Que le parent de l'enfant intimidé s'est déplacé et rentré dans le bureau du directeur ou plus directement chercher le flot qui intimidait, comme on a vu.
Oui.
On a vu des images malheureuses là, à la télévision, à grandeur de la province.
Oui.
La bonne façon pour un parent, c'est quoi? C'est de ne pas s'en mêler puis de donner les outils à nos enfants en espérant le mieux.
On peut peut-être aller rencontrer l'école, mais discrètement, parce que là, si tu t'en vas, pour le jeune qui est intimidé, avoir son parent qui arrive... On se sent moins en puissance. Si j'ai 14 ans, puis moi, je me fais intimider, puis mon père arrive pour me défendre.
C'est la dernière affaire que tu veux. Bien.
C'est
oui.
Ça. Donc, il faut penser aux jeunes aussi, mais on peut aller rencontrer la direction, mais d'une façon plus organisée.
Un grand frère, c'est cool. Un père, c'est pas cool.
C'est pas cool.
Je sais pas pourquoi.
Une mère non plus.
C'est
pas cool. La mère qui arrive, vous avez touché mon garçon.
Ouais.
Ça passerait pas parce que dans le sentiment d'appartenance des ados, pour appartenir au groupe, il faut quand même rester entre ados. Il faut pas que les parents se mêlent de nos affaires, en tout cas. Pas directement.
Mm-hmm.
Parce que l'ado, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il se développe comme adulte, qu'il fasse des choix puis qu'il évolue. Fait que si son parent arrive, lui, on l'aide pas tant que ça.
C'est un passage obligé qui va rester obligé ou est-ce qu'on peut, je sais pas, le réduire parce que je me dis, n'importe quel jeune doit apprendre à dealer avec ses émotions, doit apprendre à dealer avec les émotions des autres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un temps d'adaptation qui est difficile à passer, là, même avec les belles valeurs, le beau discours, l'encadrement, puis tout ce que ça prend. D'une gang de jeunes, c'est comme une gang de chiots, là. Tu sais, un moment donné, il y en a un qui va commencer à gosser les autres, puis on dirait qu'on n'a pas le choix de passer par là.
Puis on
là.
A une réalité hormonale, biologique, psychologique chez un jeune, social, qui est vraiment un groupe. Tu sais, un groupe de jeunes ensemble, il y a des comportements qui sont caractéristiques qu'on ne va pas enrayer, mais qu'on peut accompagner mieux. Moi, c'est ça que je verrais. Accompagnons mieux, plus rapidement, plus stratégiquement. Apprenons-les à s'affirmer. Ceux qui se font intimider, ceux qui intimident... Allons voir qu'est-ce qu'ils vivent. Mais tu sais, ça serait plus des stratégies comme ça, mais discrètes par rapport aux jeunes, par rapport à son ego, son intégrité, son évolution, tu sais. Mais là, il faut des ressources, si le gouvernement nous écoute, s'il vous plaît. Faut des ressources, faut de l'accompagnement. Puis pour les parents, attention à vos pulsions normales de protéger vos petits. On protège tous nos oisillons à notre façon, mais attention à l'agressivité, vous êtes en train de rester dans le problème.
Y a-tu des erreurs parentales? Puis je m'explique, tu sais, on entend des fois que, je sais pas, un parent qui couvre trop ses petits, ça donne comme résultat qu'ils ont aucune défense quand ils se ramassent dans la jungle de l'école.
Trop de couverture, puis pas assez de couverture. OK, les deux extrêmes. Laisser les enfants sans aucun cadre, ça, c'est pas facilitant pour le développement d'un jeune. Puis trop le couvrir non plus. Fait que c'est comme un dosage adéquat.
Hey, c'est tough, être parent. Hein?
Tu dis, toi... Non, mais ce que t'expliques là c'est le défi de tous les jours.
Tout à fait.
Moi je fais partie des parents qui ont de la misère avec ça, tu sais, de dire le lâcher-prise, il commence où? T'sais? C'est où que t'es trop sévère, c'est où que t'es trop permissif. Puis il y a bien des choses où tu te dis, tu veux que ton enfant ait une bonne vie, fait que tu veux l'aider le plus possible. Mais à un moment donné, si tu l'aides trop, tu lui nuis. Faut qu'il fasse ses pas, faut qu'il fasse ses erreurs,
là,
faut qu'il fasse ses expériences.
On a des petits pièges, les parents. Moi, je regarde mes pièges à moi, c'est ce que j'ai pas eu ou ce que j'aurais voulu qu'on fasse quand j'étais jeune, je vais le donner à mes enfants.
Ouais.
Mais là, à un moment donné, ça n'a pas rapport dans l'éducation des miens, là.
C'est pas nécessairement ce qu'ils ont besoin.
C'est ça. Puis les parents ont fait fait ça, là, on prend notre enfance, puis là, on répète exactement. Ou, tu sais, on a des petits pièges aussi comme parents, parce qu'on est un être humain avec plein d'imperfections. Donc, on fait ça de notre mieux, mais avec nos lacunes puis nos carences aussi.
Puis ça aide de dialoguer, en tout cas, moi, je trouve, là, d'échanger avec des personnes qui ont à cœur vos enfants. Tu sais, bravo à ceux qui sont encore en couple, père, mère et ainsi de suite. Oui. Des fois, c'est la nouvelle blonde. Des fois, c'est le nouveau chum. Des fois, c'est grand-papa. Oui. C'est grand-maman. Ça peut être un cousin. Mais d'échanger sur « Hey, ça me stresse, telle situation. Oui. Il se fait intimider à l'école, whatever. » D'avoir une perspective différente de quelqu'un qui a à cœur la personne.
Et rester en communication avec les ados sur ce qu'ils vivent. Tu sais, peut-être qu'ils vont vous dire « Je me suis fait écœurer aujourd'hui, OK, c'est peut-être juste aujourd'hui, on va suivre ça. Mm-hmm. On ne va pas partir l'aspect dramatique, on va être à l'écoute. Puis on va rester en communication, on garde le canal ouvert de la communication à ce sujet-là précisément.
Ouais.
Fait qu'on ne parle pas de ça toutes les soupers, mais garde les enfants, si vous faites intimider, venez donc me voir.
Mm-hmm. Ah, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Moi, c'est fait, c'est terminé, les enfants sont tous élevés.
Hey, moi, c'est ma plus grande peur.
On va t'accompagner, Audrey.
Non, mais c'est parce que tu peux rien faire. Il n'y a pas, d'accompagnement possible. C'est ça l'affaire.
On peut t'accompagner comme parent, mais je veux dire, toi, ton enfant, tu le laisses aller là, à l'école.
Tu sais, j'écoute, moi, j'en ai vécu de l'intimidation. Mes parents ont tout fait ce qui était en leur pouvoir. Ça a été avec les policiers à un moment donné parce que c'était tellement intense. Mais à un moment donné, il y a une limite. Les policiers peuvent rien faire non plus. Tu sais, quand on est réaliste, fait que, tu sais, il y a un moment où c'est ça. Tu es impuissant complètement. Puis, mon Dieu, je regarde ça, puis je regarde le futur, puis je me dis, si ça perd les popettes, je suis prête pour plein de défis. Celui-là m'angoisse foncièrement, là. Vraiment.
C'est quelque chose de normal étant donné ce qu'on voit dans notre société. Fait que je pense que d'être en relation avec notre enfant, avoir une vraie relation, une bonne communication, ça fait partie des outils juste pour qu'ils sachent qu'ils peuvent en parler s'il y a quelque chose qui se passe dans le cours d'école. T'sais.
Parce que même pour les gens qui ont plusieurs enfants, la façon de traiter l'intimidation ne sera pas la même. Tu as quatre enfants, ça peut être différent. Moi, j'en ai deux. Puis, je pense que tous les enfants subissent à un moment ou à un autre, mais je le gère pas de la même façon avec mon plus jeune qu'avec mon plus vieux. Ils ont pas le même caractère. Ils ont pas les mêmes réactions. T'sais. Puis ça amène... C'est pas facile de se retrouver là-dedans. C'est pas facile de le faire pour un ou une. C'est pas facile de le faire pour plusieurs non plus. Puis ça doit être encore pire dans une classe où tu vois des séquences d'intimidation, puis t'essayes d'intervenir, mais en même temps... T'en as 30 en avant de toi, c'est pas la même dynamique. C'est pas évident non plus pour le personnel scolaire. Non, là.
Vraiment pas.
Chapeau à ces gens-là aussi. Là, on dit qu'il manque de ressources, mais je sais que ces gens-là font leur
possible. Mais ils
travaillent
très fort dans les écoles pour que ça fonctionne mieux. Là.
Bon, ben Caro, on va réfléchir à tout ça.
Oui.
Des fois, les solutions, c'est pas simple.
Ben,
aussi
dit
simple
parler,
qu'on voudrait. Ouais.
Si on en parle, nous, ici, on peut peut-être aider des gens.
J'espère. Ben, tant mieux. Si c'est le cas, là, dites-le. 418-971-1021. On aura l'impression d'avoir servi à quelque chose. Caroline Gagnon, psychiatre, merci beaucoup.
Merci.
Il est 16h11. On fait une courte pause à Boulevard 102.1. On vient.